Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, préparez voilettes et mouchoirs, on suit le corbillard.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Le mythe de Charon, fils de la nuit et batelier des enfers, nous l'enseignait déjà. Le passage de la vie à la mort a un coût. C'était une simple obole hier qui permettait aux défunts de ne pas errer 100 ans sur les rives du Styx. Ce sont des milliers d'euros aujourd'hui, sans garantie d'atteindre les Champs-Élysées. Car Charon s'est fait curé, puis croque-mort, et enfin entrepreneur de pompes funèbres. Le rite s'est sécularisé et la mort est devenue un business. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons parler du marché de la mort en compagnie de Pascale Trompette, sociologue, directrice de recherche au CNRS, au laboratoire PACT, et autrice de cet ouvrage, Le marché des défunts, paru aux presses de Sciences Po. À 14h50, Xavier Martinet sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho.
Gareth a toujours préféré les enterrements au mariage. Il disait qu'il lui semblait plus facile de s'enthousiasmer pour une cérémonie dans laquelle il était sûr de tenir un jour le premier rôle.
C'est ce que nous avons de meilleur marché comme réceptacle.
Vous êtes sûr que...
180 dollars ?
Ça peut aller jusqu'à 3000 dollars et plus.
Mais vous pouvez pas nous la louer juste pour l'après-midi ?
Nous sommes à un funérarium, pas une agence de location.
Ça te dérange pas de dormir avec les cercueils, je suppose ? Mais peu importe que ça te dérange ou non, de toute façon, tu peux pas dormir ailleurs.
La fin, la fin, tu sais. C'est pour ça que je suis en retard.
C'est la série noire.
C'est à cause de cette boîte de pompes funèbres. Ils lui ont volé toutes ses économies. 25 000 euros, c'est vraiment des folles.
Merci encore, Agustina. Allez. Je t'emmène au chevet de la morte.
Bonjour Pascale Trompette.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous avez peut-être reconnu Quatre mariages et un enterrement, The Big Lebowski, Oliver Twist ou encore le film Bolbert. La figure du croque-mort a inspiré des réalisateurs mais aussi des romanciers. Qu'est-ce qui fait selon vous du croque-mort un parfait personnage de fiction ?
Alors je crois que le croque-mort est associé à une cérémonie, à un rituel qui touche à la mort, donc il y a un phénomène de tabou autour de la mort, et ce personnage est finalement assez peu connu. Cela en fait un personnage mystérieux qui probablement a pu inspirer la fiction pour cette dimension justement assez méconnue et mystérieuse.
Et notamment beaucoup la comédie, peut-être une forme de catharsis là-dedans.
Oui, et de contraste en fait, entre, là vous évoquez la dimension économique, et précisément une dimension qui entre en contraste et en tension avec la mort, parce qu'on touche à une dimension symbolique très importante, cela fait partie de ce que des sociologues comme Pierre Bourdieu ont qualifié de bien symbolique, qui suscite des contradictions avec une économie ou une économie classique de type marchande.
Alors on va retracer l'histoire de ce métier, et ce qu'on peut commencer par dire, Pascale Trompette, c'est que les rites qui entourent la mort ont longtemps fait l'objet d'une économie de proximité.
Jusqu'à une période récente, donc sur le temps très long, on peut dire que les funérailles sont une affaire de proximité, de localité, de lien aux paroisses. Si on remonte loin dans l'histoire, depuis le Moyen-Âge jusqu'à une période récente, oui, on peut dire que la mort est organisée à l'échelle locale, et je dirais même encore un peu aujourd'hui, même si les évolutions sociétales ont fait que les personnes sont plus mobile, mais si on raisonne aussi sur où est-ce qu'on est inhumé, par exemple, on s'aperçoit que la dimension locale ressort encore très fortement. On est inhumé là où on a des racines en général.
En tout cas, ce qu'on voit, c'est que tout au long du Moyen-Âge, c'est principalement l'Église qui contrôle le cérémonial du deuil, et ça par le biais des fabriques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont que ces fabriques ?
Alors, l'Église, à partir du Moyen-Âge et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, à l'enjeu d'établir une sorte de monopole symbolique et progressivement économique. Je pense que l'enjeu est d'abord d'établir une sorte de prise en main du rituel des funérailles sur le plan symbolique. Et progressivement, les funérailles, elles vont faire une économie pour assurer un certain nombre de revenus qui vont permettre de prendre en charge les entretiens des églises, l'assistance aux pauvres. Donc les funérailles cette prérogative va lui permettre de jouer le rôle pour le clergé et pour les fabriques. Alors les fabriques, il faut peut-être revenir un petit peu sur ce que sont les fabriques.
Absolument, si vous pouviez les définir.
Tout à fait. Les fabriques, en fait, sont les associations de laïcs, de notables qui gèrent les biens d'église. On pouvait avoir quelques suspicions sur la capacité du prêtre à être vraiment dans le calcul et l'économie des biens d'église. Et il était assisté des notables, en fait, qui composaient ce qu'on appelait ces fabriques. On appelait ces notables les marguilliers et ils géraient les biens d'église.
Eux-mêmes étaient contrôlés ?
Alors, eux-mêmes étaient contrôlés par le diocèse, par les villes. On n'était quand même pas encore dans le contexte de la séparation de l'Église et de l'État, donc les formes de régulation étaient très imbriquées. Ce sont eux qui, au fond, ont été un peu les premiers, on pourrait dire, pompes funèbres, en tout cas organisateurs, prestataires de biens pour les funérailles.
Et c'était déjà une entreprise rentable ?
Alors, on ne pouvait pas parler d'entreprise, en fait, parce que tout l'enjeu, on pouvait parler d'organisation économique. Pour moi, vraiment, l'entreprise débute à la Révolution française. Au préalable, on a plutôt ces organisations économiques qui travaillent aux côtés d'entreprises de corporations, plutôt. Là encore, on ne pouvait pas encore parler d'entreprise jusqu'à la Révolution française. Les corporations étaient régies par des édits du roi. On avait par exemple la corporation des crieurs jurés, les gens qui criaient les morts, qui apportaient aussi des fournitures. On avait les ciriers, on avait les gens qui fournissaient les tentures, les tissus. Donc toute une série de corporations et ces fabriques. Et tout ce petit monde... Alors, ne coopéraient pas forcément toujours, il pouvait y avoir des disputes économiques, mais travaillaient de concert dans cette économie des funérailles, quand même plutôt au service de la bourgeoisie et des notables.
Mais c'est intéressant effectivement de voir qu'il y a différentes activités qui sont prises en charge soit par les corporations, soit par les fabriques. Tout cela est assez bien organisé et en même temps fait l'objet de conflits, comme vous le disiez, des conflits qui doivent être tranchés par des ordonnances royales.
Alors des conflits qui sont tranchés plutôt à l'échelle locale. Alors l'ordonnance royale dans certaines villes notamment à Paris, pouvait établir un certain monopole. C'était un peu l'enjeu du roi de récupérer de pas laisser l'Église tout contrôler. Donc il a établi par exemple notamment cette corporation des crieurs jurés. Et après, à l'échelle locale, on avait des disputes. Par exemple, la cire, les cierges, en quelque sorte, faisaient l'objet de disputes pour savoir à qui revenait le revenu de la cire, qui était quand même très important. Est-ce que ça revenait au prêtre? Même entre le prêtre et les fabriques, il pouvait y avoir des disputes. Qui se chargeait des tentures, qui se chargeait des linceuls, etc. Les autorités locales, aussi bien civiles que religieuses, essayaient de régler les conflits qui survenaient à cette occasion.
Et alors ce caractère local qu'on évoquait au tout début de cette émission va évoluer au fur et à mesure des siècles, en particulier avec l'urbanisation et l'industrialisation à partir du XVIIIe siècle. Et il y a alors de plus en plus de morts dans les grandes villes et ça va commencer à poser des problèmes sanitaires. La question des lieux d'inhumation, Pascal Trompette, ça devient un problème public à partir de ce moment-là ?
Tout à fait. À partir de la fin du XVIIIe siècle, on a vraiment la problématique la crise en fait des cimetières qui surgit avec ces cimetières intramuros. Les cimetières étaient autour des paroisses. Dans les paroisses, on pouvait enterrer les nobles, mais on avait quand même au milieu des villes en fait des cimetières qui sont devenus qui ont créé des problèmes d'insalubrité très importants et qui ont du coup provoqué une situation dans laquelle les autorités progressivement ont mis en place, ont commencé à raisonner l'idée du cimetière extramuros, hein, et avoir ce qu'on a appelé la translation des cimetières, donc leur déplacement à l'extérieur des villes.
Et le risque s'exacerbe évidemment lors des épidémies. Dans le Hussard sur le toit de Jean Giono, la Provence est frappée dans les années 1830 par une épidémie de choléra.
D'extraordinaires rumeurs soufflaient sur la ville.
Je viens de Marseille. J'ai vu les morts entassés plus haut que l'imposte des boutiques.
On dit qu'à Aix, la ville est comme un champ de gibier. On assomme les malades.
Moi, on m'a dit qu'on devait les prendre au lasso. Mais il y a pire. On m'a dit que dans certains endroits, les malades étaient tellement brûlés de fièvre que les cadavres devenaient comme de la madoue et s'enflammaient au moindre souffle.
C'est vrai. C'est ainsi que la ville de Die a brûlé.
Dans la Drôme, il y en a de belles. Les oiseaux y sont devenus fous.
Moi, on m'a dit que dans un pays pas loin, les chiens qui mangeaient les cadavres avaient fini par prendre de l'arrogance. Oh. Ils changeaient de physionomie. Ils leur poussaient des moustaches.
Eh bien sûr, ils n'ont plus envie d'être chiens.
La ville ne remuait que comme un moribond. Elle se débattait dans le propre égoïsme de son agonie. Il y avait sous les murs des rumeurs sourdes comme de muscles qui se détendent, de poumons qui se vident, de ventres qui se débondent, de mâchoires qui claquent. On ne pouvait plus rien demander à ce corps social. Il mourait.
Voilà un extrait d'une fiction réalisée par France Culture qui avait été diffusée pour la première fois en 1953. Pascal Trompette, la menace sanitaire est peut-être réelle, mais ce qu'on entend bien ici, c'est qu'elle peut aussi faire l'objet de nombreux fantasmes.
Oui, alors elle était quand même réelle. On a eu cet épisode du cimetière des Innocents dans lequel on avait des amoncellements en fait de corps dans Paris qui se sont écroulés, qui se sont perdus dans les villes et donc qui ont provoqué quand même le symptôme d'une véritable crise et d'une atteinte quand même à la salubrité publique.
Ça, c'est arrivé quand ?
C'est arrivé à la fin du 18e, il me semble autour de 1776, je ne sais plus exactement la date, en tout cas dans cette période-là. Et c'est ce qui a été déclencheur, en fait, et d'une acceptation un peu plus grande de la population de voir les cimetières se déplacer à l'extérieur. Après, ça, c'est vrai que cette problématique des épidémies, de la mort, de l'insalubrité, elle est un peu constitutive quand même de ce tabou et de cette problématique des pompes funèbres et de ce qu'ils peuvent représenter en termes d'image sociale.
L'histoire des pompes funèbres, c'est aussi l'histoire de la mise à distance de la mort.
Tout à fait. Alors, on a aussi souvent évoqué cette idée que le croque-mort aurait été celui qui croquait, etc. C'est, à mon avis, une légende. En tout cas, croquer voulait dire faire disparaître. Donc, croquer le mort, c'était le faire disparaître. Je pense que ça évoque tout à fait cette idée de mise à distance nécessaire de corps qui présentent quand même des caractéristiques potentiellement dangereuses pour les populations.
Et alors on a parlé des fabriques et des corporations qui supervisent ensemble les funérailles, chacun dans son activité, mais il va y avoir la révolution de 1789 qui va mettre fin au monopole réglementé des funérailles avec l'abolition des corporations et ensuite le décret Préral qui est signé par Napoléon en 1804. Qu'est-ce que ces deux événements vont changer à l'organisation des obsèques en France, Pascal Trompette ?
Alors ces événements se représente une rupture radicale à mes yeux de sociologue des marchés, c'est-à-dire que c'est un petit peu là que pour moi démarre l'histoire du marché funéraire. D'abord, la Révolution française, elle représente une rupture par rapport à la dépossession des églises, à la fin du monopole des fabriques sur les funérailles, à la suppression du droit des corporations, etc. Du coup, on se retrouve dans une espèce, pendant quelque temps, dans une espèce de no man's land, dans lequel on se charge assez mal, on doit dire, des morts, on a des charniers, etc. Donc ça provoque quand même beaucoup de critiques. On trouve dans la littérature des critiques assez virulentes de cette période sous la terreur dans laquelle le service des sépultures est vraiment un désastre.
C'est pour ça que Napoléon souhaite redonner du pouvoir à l'Église.
Alors Napoléon, il souhaite, d'abord il arrive quand même à une période où lui il a un enjeu de rétablir un compromis avec l'Église et c'est ce qui va mener au concordat, et dans ce contexte de concordat, Napoléon fait une sorte d'échange politique avec l'Église, c'est-à-dire qu'il leur concède, il leur redonne ce monopole des funérailles, alors que dans la période de la Révolution, s'est engagé quand même toute une réflexion, avec même un concours qui a été organisé, confié à l'Institut de France, pour essayer de réinventer le rituel des funérailles en lui donnant une consonance, une caractéristique véritablement publique. Tout cela aboutit à l'idée que Église, dimension sacrée et religieuse et inhumation et publicisation des funérailles devaient peut-être un petit peu marcher de concert. Donc on ne pouvait pas faire table rase de la dimension sacrée et qu'il fallait coopérer. Et dans ces deux événements, échange politique et restauration d'une dimension privée sacrée des funérailles, ont abouti à ce que Napoléon restitue, attention, le monopole économique des funérailles. Le rituel, c'est plus compliqué. Le rituel va devoir intégrer une part de protocole public, et notamment pour tout ce qui va se dérouler dans l'espace urbain. Là, on est vraiment dans ces caractéristiques assez classiques de séparation des espaces. La sphère privée et la sphère de l'Église, c'est l'affaire des fabriques sur le plan du rituel, et la ville et le cortège sont l'affaire de l'acteur public.
Alors face à ces trois acteurs, les pouvoirs publics, l'Église, mais aussi le secteur privé, comment se déroulent par exemple les funérailles des plus pauvres? On se souvient du lugubre enterrement du père Goriot de Balzac, qui finit sa vie ruinée à cause de ses filles. Écoutons un extrait en direct lu par Aliette Ovine de l'équipe d'Entendez-vous l'écho.
Les deux prêtres, l'enfant de cœur et le bedeau, vinrent et donnèrent tout ce qu'on peut avoir pour 70 francs, dans une époque où la religion n'est pas assez riche pour prier gratis. Les gens du clergé chantèrent un psaume, le Libera, le De Profundis. Le service dura 20 minutes. Il n'y avait qu'une seule voiture de deuil pour un prêtre et un enfant de cœur, qui consentirent à recevoir avec eux Eugène et Christophe. « Il n'y a point de suite, » dit le prêtre. « Nous pourrons aller vite afin de ne pas nous attarder. Il est 5h30. » Cependant, au moment où le corps fut placé dans le corbillard, deux voitures armoriées, mais vides, celle du comte de Restaud et celle du baron de Nucingen, se présentèrent et suivirent le convoi jusqu'au Père Lachaise. À 6h, le corps du père Goriot fut descendu dans sa fosse, autour de laquelle étaient les gens de ses filles, qui disparurent avec le clergé aussitôt que fut dite la courte prière due au bonhomme pour l'argent de l'étudiant. Quand les deux fossoyeurs eurent jeté quelques pelletées de terre sur la bière pour la cacher, ils se relevèrent, et l'un d'eux, s'adressant à Rastignac, lui demanda leur pourboire. Eugène fouilla dans sa poche et n'y trouva rien. Il fut forcé d'emprunter 20 sous à Christophe. Ce fait, si léger en lui-même, détermina chez Rastignac un accès d'horrible tristesse.
Pascal Trompette, que vous inspire ce récit? Qu'est-ce qu'il nous dit du sort réservé aux plus pauvres, au ce milieu du 19e siècle?
Oui, c'est assez... il est certain que c'est assez, on pourrait dire, choquant, ou en tout cas difficile d'entendre ça. Et en même temps, ce que ça nous dit, c'est que même les pauvres avaient droit à un cortège. Alors,
même expédié.
J'allais dire, même dans ces conditions un petit peu limites. Mais l'enjeu quand même de Napoléon, de la Révolution française, c'est d'organiser les funérailles pour les indigents, qui sont effectivement très nombreux. Vous avez évoqué le problème de la concentration urbaine. Dans une ville comme Paris, les enterrements des indigents, c'est-à-dire des enterrements gratuits, ça représente à peu près 40-50% des enterrements. Donc ça représente un coût pour l'acteur public qu'il a instauré. Et il a aussi instauré, Napoléon, le droit à l'inhumation, au cortège et à la sépulture individuelle. Ce qui est quand même un progrès social, tout relatif, comme vous l'évoquez, mais un progrès social.
Et c'est l'enterrement des plus riches, finalement, qui permet de financer l'enterrement des plus démunis?
Alors, toute l'économie des funérailles qui est inventée par Napoléon, et en cela, il avait quand même, pour moi... il a vraiment innové dans la façon dont il a raisonné la question. Alors lui et puis le préfet Frochot, qui était le préfet de Seine, en fait, puisqu'on est quand même sur une législation qui s'invente dans Paris par rapport à ces problématiques de pauvreté, et c'est pas forcément tout venu de la loi prairiale. Effectivement, l'idée, c'est que les quelques pourcentages, ça va de 10, 20, 30% de vraiment d'obsèques qui sont faits avec un suffisamment d'apparat pour générer des revenus puisse permettre d'enterrer les 70% soit d'indigents, soit de personnes qui avaient un cortège très basique, donc qui ne rapportaient rien sur le plan économique.
Et c'est dans ce contexte qu'on voit ces agences de funérailles apparaître au cours de ce 19e siècle, des agences qui font le lien entre les familles et les entrepreneurs des pompes funèbres.
Alors, il y a deux acteurs, en fait, deux types d'acteurs économiques qui interviennent. En fait, Napoléon restitue le monopole des funérailles aux fabriques, mais les fabriques ne vont pas forcément s'en saisir. Elles peuvent continuer à organiser les funérailles, mais elles vont être assez méfiantes. D'abord, elles ont été dépossédées, elles ont perdu une partie du matériel, et puis d'autres acteurs ont un petit peu improvisé les funérailles pendant la période révolutionnaire, donc sont présents. Donc des entreprises sont intervenues pendant la période révolutionnaire. Et puis, il y a cette obligation d'enterrer gratuitement les indigents. Ce contexte fait que les fabriques, elles sont autorisées par Napoléon à déléguer l'organisation des funérailles à des entreprises.
Donc on rappelle pour les auditeurs qui nous rejoindraient que les fabriques gèrent les biens de l'Église.
Tout à fait. Et elle la délègue à une entreprise. C'est une sorte de partenariat public-privé et religieux avant l'heure, si vous voulez. L'entreprise est chargée d'organiser les funérailles. Elle vend toute une série de prestations pour lesquelles elle restitue une commission aux églises, qui est quand même très importante, qui peut aller jusqu'à 50, 60, 70% de commission. Donc les fabriques sont tout à fait heureuses de récupérer finalement la rente économique, mais elles ne se chargent plus directement du service, elles le concèdent à une entreprise. Bon, sachant que dans cette période-là, quand vous organisez des funérailles, il faut des chevaux, il faut des hangars, il faut du personnel, il y a tout un équipement. Donc c'est quand même des investissements assez importants dans les villes.
Et puis c'est de plus en plus cher, puisque les cimetières sont de plus en plus loin.
Et puis le cortège, en fait. C'est vrai que le déplacement de l'église au cimetière et le cortège dans les villes devient quelque chose d'important avec cette montée de la bourgeoisie qui souhaite se défiler dans la ville dans laquelle on affirme son rang, en quelque sorte. Donc, ce premier acteur économique, c'est le délégataire, le concessionnaire de la ville, on peut dire le pompe funèbre de la ville, qui intercède entre
les familles,
l'église et puis les villes. Et à qui, quand on lui concède le marché, il doit aussi quand même enterrer gratuitement les indigents. C'est ce qui amène, en fait, c'est vrai que l'histoire est un petit peu compliquée, mais il, lui, pour développer un petit peu sa rentabilité d'entrepreneur, vu qu'il concède quand même une grande partie de ses revenus aux fabriques, il va revendiquer auprès de Napoléon et du préfet Frochot, en tout cas à Paris, ils vont revendiquer de pouvoir accessoiriser les funérailles, rajouter du superflu, des oreillers dans les cercueils, des draps, des écussons, etc.
Et c'est cela qui assure la rentabilité.
C'est ça qui assure sa rentabilité pour lui. C'est-à-dire qu'on lui accorde de pouvoir vendre librement toute une série de petits accessoires. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on a autorisé cette vente de petits accessoires librement, en fait, on a ouvert la brèche au marché. C'est-à-dire que d'autres acteurs autour des funérailles voient l'opportunité. C'est ce qu'on appelle les agences de funérailles. Et ces agences, elles apparaissent quand même. On en a une vingtaine à Paris. Vous voyez, ça reste quand même très limité autour des années de 1948-50. Donc, c'est encore. Ce sont souvent des bons funèbres qui ont perdu le marché de la ville parce qu'il y a eu des mouvements.
Et donc, c'est une concurrence assez rude.
Alors, c'est une concurrence parce qu'ils se positionnent en interface entre le pompe funèbre de la ville et les familles. C'est-à-dire qu'ils se positionnent un peu comme des courtiers. En vous proposant, en tant que famille, je vais vous organiser des obsèques, je vais faire en sorte que vous ayez le plus beau cortège au meilleur prix. Faites attention aux pompes funèbres de la ville parce que ils risquent de vouloir faire des bénéfices. Donc ils sont en quelque sorte, ils se posent un petit peu comme les gardiens d'autres qui profiteraient ou qui abuseraient des familles, ce qu'ils font tout autant par ailleurs, puisque eux, ils ne vivent que sur les fournitures libres. Et c'est un petit peu cette histoire de la naissance d'un marché dans un contexte de monopole qui m'a passionnée en tant que sociologue, essayant de comprendre cette jeunesse du marché. Parce qu'en fait, il faut rentrer dans cette espèce de subtilité, de petite brèche ouverte autour des fournitures libres pour voir se développer le marché de façon assez incroyable, en fait.
Alors, vous parliez de ces bourgeois, Pascal Trompette, qui souhaitent faire état de leur prestige social à travers leurs funérailles. Et Zola a écrit un petit livre intitulé « Comment on meurt ?» qui dépeint les différentes funérailles selon les classes sociales. Alors, comment meurt-on chez les aristocrates ?
À 10h, enfin, le convoi se met en marche pour se rendre à l'église. Le corbillard est une voiture de première classe, empanachée de plumes, drapée de tentures à franges d'argent. Les cordons du poil sont tenus par un maréchal de France, un duc, vieil ami du défunt, un ancien ministre et un académicien. Roger de Verteuil et Monsieur de Bussac conduisent le deuil. Ensuite vient le cortège, un flot de monde ganté et cravaté de noir, tous des personnages importants qui soufflent dans la poussière et marchent avec le piétinement sourd d'un troupeau débandé. Le quartier ameuté est aux fenêtres. Des gens font la haie sur les trottoirs, se découvrent et regardent passer avec des hochements de tête le corbillard triomphal. La circulation est interrompue par la file interminable des voitures de deuil, presque toutes vides. Les omnibus, les fiacres s'amassent dans les carrefours. On entend les jurons des cochers et les claquements des fouets. Et pendant ce temps, la comtesse de Verteuil, restée chez elle, s'est enfermée dans son appartement en faisant dire que les larmes l'ont brisée.
Pascal Trompette, les funérailles fastueuses des nantis, telles que Zola les décrit ici, sont une pratique qui est à la fois enviée et moquée.
Alors c'est un ouvrage magnifique, Comment on meurt, avec cette description des différentes façons d'enterrer en fonction du rang. C'est emblématique de cette période dans laquelle, et c'est là qu'on voit aussi la distance avec la Révolution française et ses ambitions de d'égalitarisme qui sont en quelque sorte en quelques décennies un petit peu ruinées par ce retour en fait à l'affirmation du faste, à l'expression du faste comme un symbole du rang, avec effectivement parfois des nobles qui pourraient au contraire renoncer au faste pour marquer leur distinction par rapport à cette bourgeoisie montante qui, elle, utilise plutôt cet apparat pour exprimer son niveau social. Mais je crois aussi que cette évolution, elle est en quelque sorte encouragée en fait par les bons funèbres. Ce n'est pas seulement une évolution sociale, c'est une évolution qui est encouragée par cette concurrence que se livrent les agences et les bons funèbres municipaux, dans la mesure où, en développant ce commerce des fournitures libres, ils rajoutent beaucoup d'accessoires, et plus ils en rajoutent, j'allais dire, plus l'affaire est rentable pour eux. Et ça donne cette espèce de débordement, quelque sorte d'excroissance des fournitures dans le cérémonial que vous décrivez, alors qui faisait quand même partie aussi de la dimension classe d'enterrement qui était dans le cadre qui était inscrite au monopole, mais j'allais dire ce faste du funéraire est un petit peu encouragé par la concurrence.
Et en même temps, les enterrements vont progressivement s'uniformiser au cours du XXe siècle. On va en parler dans un instant.
Quand je rentre à la maison, elle me dit souvent que j'ai une tête d'enterrement. Et elle a raison, je travaille au cimetière, c'est incontestable. Je laisse ma tête au vestiaire et je me mets à table. Faut pas se laisser abattre, j'ai une faim de loup. Moi je mange comme quatre et je bois comme un trou. Puis je retourne au cimetière, travailler mon mieux, digérer mon pot de bière et mon croque-monsieur. Pendant l'oraison du prêtre, j'ai un petit creux, moi je pense à ma côtelette, à mon pot au feu, aux premières couronnes de fleurs. J'ai déjà la dent, c'est mon estomac qui pleure à chaque enterrement. chemin côté du cimetière est inhabité. J'ai planté des pommes de terre dans l'intimité. Et dans ma jaquette noire, entre deux services, je donne un coup d'arrosoir et je cours à l'office. Je gratte, je bine et je bêche, quelle heureuse surprise. Quand je trouve un verre pour la pêche, je range ma prise dans une boîte en fermant, le temps est superbe. Voilà un coin épatant pour déjeuner sur l'herbe. À présent qu'a sonné l'heure, l'heure du goupillon, je pense à mes pommes vapeurs, à mon courbouillon. Et quand tombent les premières gouttes sur mon ventre de femme, c'est mon ventre qui glougloute, mon ventre qui rôde.
Croque de Thomas Fersen sur France Culture. D'Entendez-vous l'écho, nous sommes toujours en compagnie de Pascal Trompette pour parler du marché de la mort. Alors comment les représentations de cette figure du croque-mort ou de l'entrepreneur des pompes funèbres évoluent-elles, Pascal Trompette, au cours du 19e siècle? On voit que là où il pouvait être considéré comme un notable au début du 19e siècle, peu à peu il y a de plus en plus de soupçons d'escroquerie.
Oui. Et c'est un petit peu, finalement, on a une représentation assez ambivalente. J'allais dire, dans les pompes funèbres, ont été un peu les responsables eux-mêmes. La figure du notable est celle de ce délégataire concessionnaire de la ville, qui, dans le contexte des classes d'enterrement, a un rôle avec le maître des cérémonies, qui joue un rôle très important, l'ordonnateur de la ville, qui ouvre le cortège, etc. Et donc là, c'est plutôt la figure du pompe funèbre de la ville, du notable, qui s'impose. Mais cette concurrence dans les villes qui est provoquée par les agences, elle s'accompagne de dénonciations, en fait, de critiques qui ont produit d'ailleurs des ouvrages. J'avoue que quand je suis tombée sur ces ouvrages, Les mystères des pompes funèbres de la ville de Paris, Les vampires, avec des noms un petit peu suggestifs.
Un imaginaire complotiste.
Exactement, qui sont un imaginaire complotiste qui est raconté par les entrepreneurs qui se dénoncent en fait entre eux. Donc les agences dénoncent les procédés des pompes funèbres municipales qui elles-mêmes dénoncent les procédés des agences. Et cette dénonciation mutuelle finalement dévoile d'abord tous les petits procédés, alors escroqueries en tout cas commerciaux, les tactiques qui permettaient d'accroître le panier de marchandises et les bénéfices de l'entrepreneur. Et elles les rendent visibles et elles vont quelque part, je pense, faire le lit de cette représentation assez négative et assez critique de pompes funèbres qui exploitent le désarroi des familles.
C'est ce qui explique les débats durant la seconde moitié du 19e siècle, débats sur le rôle du service public, des entrepreneurs privés, sur la place de chacun.
Alors, en tout cas, ça participe à une réflexion sur, au fond, comment rendre possible à la fois le recours à des entreprises qui, il faut le dire quand même, ont une capacité en termes d'efficacité et de performance économique, hein, parce qu'elles vont quand même beaucoup travailler au service des villes, et quand on les compare à des services municipaux, elles amènent d'une certaine façon plus de rentabilité. C'est ce qui fait que les mairies vont souvent déléguer aux pompes funèbres l'organisation des funérailles. Et puis en même temps, toute cette problématique de l'exploitation de familles en situation de deuil qui provoque la nécessité pour, en tout cas pour l'acteur public, de se saisir de cette question. Mmh.
Mais avec la séparation de l'Église et de l'État au début du XXe siècle, le monopole des fabriques va être transféré aux municipalités. Et tout au long du XXe siècle, ce qu'on observe, Pascal Trompette, c'est que le rôle des entrepreneurs de pompes funèbres ne va pas cesser de s'étendre au détriment des pouvoirs publics.
Alors, en fait, la loi de 1904, elle intervient dans ce contexte dans lequel on a une réflexion assez longue sur la séparation de l'Église et de l'État. Ça commence à partir de 1887 autour des réflexions sur les cimetières. Et puis, en 1904, on a cette dépossession, quelque sorte, de l'Église. Au fond, moi, je l'ai lu comme quelque chose, un processus finalement assez continu, c'est-à-dire que les fabriques avaient délégué en partie, hein, parfois elles avaient organisé quand même elles-mêmes le service, mais au fond, quand elles ont organisé, la régie devient municipale, et quand elles ont délégué, l'entreprise va travailler uniquement au service de la municipalité.
Donc ça ne vient que acter une réalité qui existait déjà.
Une réalité qui existait déjà. Par contre, dans ce moment de rediscussion de la loi, se pose la question du périmètre du monopole. Et là, effectivement, il y a une relative réduction du périmètre. Dans cette histoire de fourniture libre, on laisse le champ. On a quand même une partie des élus qui sont plutôt dans des sensibilités libérales, qui vont défendre le commerce des funérailles et vont promouvoir que le monopole soit restreint. Ah, alors on inclut toujours le cercueil. Le cercueil est quand même ce qui, un peu l'objet, qui permet cette péréquation tarifaire, qui permet cet enterrement gratuit des indigents, parce que on y concentre un prix élevé et ce qui va permettre. Donc on le conserve dans la sphère du monopole et pour le reste, on autorise, on laisse se développer une concurrence autour du monopole beaucoup plus importante.
Et c'est dans le contexte du développement du secteur privé que on a des cérémonies qui sont de plus en plus uniformisées et aussi, après la Deuxième Guerre mondiale, de plus en plus de personnes qui peuvent s'offrir des funérailles un petit peu plus aisées, un petit peu plus luxueuses.
Tout à fait. On a plusieurs phénomènes qui viennent à l'appui de cette structuration, en quelque sorte, du marché des funérailles. Le premier phénomène est le développement de cette grande entreprise que sont les PFG, qui sont en fait, au départ,
les
pompes funèbres générales. Qui sont un concessionnaire qui conquiert des villes, en fait, des municipalités, qui gagnent le marché de la concession de façon assez étendue, qui rachètent des entreprises concessionnaires et donc qui développent un premier réseau national d'entreprises de pompes funèbres. Et ça amène forcément un petit peu de standardisation, puisque la prestation, c'est une grande entreprise qui amène une forme de standardisation. On a le phénomène quand même de rupture amenée par les deux guerres mondiales qui, à mon avis, sur le plan sociologique, est extrêmement important parce qu'on voit une très nette rupture dans l'après-guerre à partir des années 50 avec la disparition du faste au profit de pompes funèbres, de funérailles beaucoup plus standardisées. On a aussi l'évolution dans les campagnes. On en a très peu parlé encore pour l'instant du monde rural. Le monde rural avait une organisation assez autonome par rapport à tout ce que je vous ai décrit dans les villes. C'est plutôt la collectivité, le menuisier, les femmes, les voisins qui portaient, etc. Donc on avait une organisation sociale complètement autonome. Et là, des entreprises, les menuisiers vont commencer à développer des petites entreprises de pompes funèbres locales. Ces évolutions vont contribuer à transformer un peu la forme sociale que peut prendre les funérailles.
Allez, difficile de consacrer une émission au marché de la mort sans entendre un extrait de Six Feet Under, l'excellente série d'HBO qui raconte le quotidien de la famille Fisher, propriétaire donc d'une société de pompes funèbres. La série s'ouvre sur l'enterrement du père Nathaniel Fisher.
Nat, non ! Je refuse d'aseptiser ça encore plus. Mais c'est le rituel.
Ah ouais ? Eh ben il est nul ton rituel. Ça sert à quoi cette salière, hein ? Hein, à quoi ça sert ce cercueil hermétique, ce gazon artificiel autour de la tombe? En bonté divine, ça ressemble à de la chirurgie, c'est propre, c'est aseptisé. C'est du business. C'était notre père.
Je te prie de te taire.
Tu peux lui injecter tous les produits que tu veux, tu peux le couvrir de fond de teint, l'installer confortablement dans une chambre funéraire de luxe. Il ne reste pas moins, David, que le seul père que nous n'aurons jamais, toi et moi, est mort. Pour toujours. Et que c'est nul. Mais c'est vrai que ça fait partie de la vie, et si tu veux vraiment l'accepter, il faut que tu te salisses les mains. Moi, je l'accepte, et j'ai l'intention d'honorer ce pauvre vieux, en faisant voir à tous les gens que ça me fout complètement en l'air qu'il nous ait quittés.
Pascal Trompette, qu'est-ce que cet extrait nous dit de l'évolution du rapport à la mort, et notamment de la place de plus en plus importante qui est accordée aux soins du corps ?
Alors effectivement, alors d'abord c'est une très bonne série que je recommande sur le plan ethnographique, je dirais sociologique. Elle est assez fidèle à ce qu'est l'activité des pamphléniens, même si elle se passe pas en France. Ensuite, elle traduit au fond, j'allais dire une deuxième ère sociologique, on pourrait dire une deuxième période sociologique dans laquelle on entre dans cette après-guerre. J'ai oublié d'évoquer quand même la motorisation des convois qui transforme aussi les funérailles. On n'a plus les corbillards à chevaux, hein, comme on pouvait l'avoir. On voit arriver le corbillard motorisé. On a le Concile Vatican II qui supprime les classes d'église. Toutes ces évolutions à partir des années 60 vont converger vers un cérémonial qui devient plus homogène, qui se démocratise, dans lequel on perd cette expression du rang social qui était dominante, comme on l'a expliqué au 19e siècle.
Et parallèlement, se développe la thanatopraxie.
Tout à fait.
Ce souhait, peut-être, de montrer davantage le corps comme ce qui se pratique aux États-Unis.
Exactement. Et c'est une évolution qui, en fait, est apportée par le pompe funèbre générale, cette grande entreprise que j'évoquais tout à l'heure, qui était une entreprise qui avait quand même des chevaux, des tentures. On avait les tendeurs, ça représentait. Les tentures étaient ces grands. Ce qu'on mettait devant l'église et devant la maison du défunt, ça occupait beaucoup de monde, en fait, les chevaux et les tentures, et il fallait se reconvertir. En fait, il fallait reconvertir l'entreprise à d'autres formes d'organisation. Et les PFG sont allés chercher du côté des États-Unis ces évolutions qu'ils ont importées autour des chambres funéraires, au funeral home, autour de la thanatopraxie et de l'embaumement, qui sont des innovations. Je ne vais pas faire l'histoire de l'embaumement parce qu'elle remonte très loin, et c'est une innovation au fond française et italienne, mais qui ne s'est pas développée en France, qui s'est développée aux États-Unis et qui a été rapportée dans cette période.
Et qui s'inscrit dans un contexte où on meurt de moins en moins chez soi, mais de plus en plus à l'hôpital.
Tout à fait. Donc dans les années 60, vous avez vraiment ce faisceau d'évolution, le développement de la mortalité à l'hôpital, avec un renversement statistique qui est assez clair. On avait à peu près 30% de défunts dans les hôpitaux. On a 70 ans en l'espace de 20 ans. 70% en l'espace de 20 ans. Donc un renversement, une concentration de la mortalité dans les villes. Des hôpitaux qui sont un petit peu, pas du tout préparés à gérer cette mortalité.
Et qui délèguent.
Aux opérateurs, principalement aux opérateurs des villes, puisque les hôpitaux sont des villes, ça conduit à ce développement des chambres funéraires et de l'embaumement comme une nouvelle offre de service.
Et alors, vous parliez des pompes funèbres générales. Aujourd'hui, le secteur des pompes funèbres, c'est un secteur qui est encore très concentré.
Alors, les pompes funèbres générales, dans cette période, ont représenté, je crois qu'on estimait qu'ils enterraient jusqu'à 45-50% des défunts, parce que ils avaient à l'époque 80% du marché de la concession. C'est un petit peu comme dans le système de l'eau avec la Lyonnaise des Eaux. C'était une grande entreprise concessionnaire sur laquelle 80% des municipalités s'étaient adossées. Donc ça produisait un phénomène de concentration. Et autour, vous aviez les agences ou les pompes funèbres rurales qui représentaient quand même 50%, l'autre 50%. Donc on avait un marché assez dual.
Il y a eu une volonté de mettre plus de concurrence dans ce marché, volonté qui s'est heurtée à un certain nombre de difficultés qui font qu'aujourd'hui la concurrence n'est pas extrêmement forte, et c'est ce manque de concurrence, selon l'UFC Que Choisir, qui explique la hausse des prix.
Alors, entre temps, on a quand même... une transformation du marché qui a été provoquée par les petits opérateurs, en fait, l'ouverture à la concurrence, c'est-à-dire la fin du monopole et la fin de ce modèle des concessions. Quand j'évoquais la concentration dans les villes, La concentration dans les villes a provoqué un déséquilibre assez fort du marché au profit des concessionnaires et a amené à une révolte des petits indépendants qui ont fait toute une série de démarches politiques, y compris en violant le monopole, à travers des phénomènes un peu médiatiques autour de la figure qui ont été largement portés par Michel Leclerc, hein, qui était un nouvel entrant dans le secteur et qui a défendu l'idée de la libéralisation du secteur. Cette pression a abouti à ce que le législateur acte d'une concurrence de la libéralisation dans la fin des années, au début des années 90, en 1993 plus
précis. Et aujourd'hui, on en est là.
Facile devis pour Monsieur Froissart.
Merci, Evelyne. On affinera le global par la suite, mais présentement, j'ai budgété 6000 euros pour le Dauphin. TTC, naturellement.
Je vous fais confiance. Ça vous ennuie pas que je vous donne des arts en espèces?
Allez, monsieur Froissart, on s'occupe de tout. On se voit à la cérémonie. Mes condoléances.
Vous faites un métier difficile, mais vous le faites bien. Merci, merci pour elle.
Quasiment 25 000 euros. C'est notre plus gros client depuis le début de l'année.
T'aurais pu lui refiler la concession à perpète, quand même.
Moi, je trouve ça super pour un nouveau.
Pas de mérite. C'était aussi facile que de piquer son sac à une vieille.
Un extrait de Bouquet final avec Didier Bourdon et Marc-André Grondin. Alors là, évidemment, on est dans la caricature, mais tout de même, le prix total des obsèques pour une inhumation hors caveau et concession s'élève en moyenne à 3 815 euros aujourd'hui. Pascal Trompette, comment est-ce qu'on explique de tels tarifs?
Alors d'abord, on est entré effectivement dans l'ère du marché depuis ces années 90, et donc on a des opérateurs qui se sont retrouvés tous à un petit peu à un pied d'égalité et qui ont développé, je pense, une partie leur offre autour de ces chambres funéraires et des équipements en fait funéraires. Quand vous aviez des chambres funéraires quand chaque opérateur construit sa chambre funéraire comme un espèce d'équipement privé, ça produit une inflation des prix parce que vous avez un marché qui, que nous on dit, que les économistes disent borné. C'est en quelque sorte un gâteau qu'on ne peut que se partager. On ne va pas faire enterrer deux fois une personne. Donc, on a un nombre croissant d'opérateurs qui doivent se partager un nombre limité de défunts et qui investissent dans des équipements qui, pour eux...
demandent de forts investissements. Mais en même temps, aujourd'hui, en France, le nombre de morts augmente chaque année. Donc, on peut dire qu'en un sens, il y a plus de possibilités qui s'offrent.
Alors, le nombre de morts augmente, mais j'allais dire, on projette de fortes augmentations avec l'arrivée de ce qu'on appelle le papy boom dans les 20 années prochaines. Mais on est au début, parce que là, on a eu quand même une période de progression du nombre de morts, mais de beaucoup progression plus importante du nombre d'opérateurs, d'une progression très, très importante des équipements, d'investissement des opérateurs, investissent dans des crématoriums aussi. Et puis, vous avez d'autres phénomènes, hein, d'explication de l'augmentation des prix. Mais probablement, le fait que l'OGF PFG a quand même, en perdant le marché de la concession, a quand même perdu des parts de marché, a revalorisé la prestation en termes de prix. Et comme c'est l'opérateur dominant, ça, forcément, les autres s'alignent et ça produit une...
Il y a un autre problème qui a été soulevé par la Cour des comptes, c'est celui de la transparence des prix, des prestations. Ce constat, en réalité, remonte au début des années 90, mais il y a eu un rapport de la Cour des comptes rendu à ce sujet il y a un an. Comment expliquer ce manque de progrès sur cette question de la transparence?
Le progrès, comme toutes les évolutions dans le secteur funéraire, est toujours très lent, pour toutes sortes de raisons. Je pense qu'il y a des difficultés quand même à comparer. Alors Jean-Pierre Sueur, le législateur, souhaitait qu'on crée des devis types. Il y a un certain nombre d'opérateurs qui jouent le jeu de répondre à des demandes de devis, à produire des devis, mais même quand ils le font, il peut être très difficile de comparer des devis qui ne présentent pas la même chose. Il y a des modèles de tarification qui peuvent être très différents.
Ce n'est pas la mauvaise volonté.
Il y a quand même une relative. Le secteur se protège forcément. Il se protège par rapport à, c'est ce que j'évoquais, par rapport au nombre croissant d'opérateurs, par rapport à une rentabilité qu'il va assurer avec ses équipements et par rapport à une situation dans laquelle des personnes se trouvant en situation d'obsèque n'ont pas forcément beaucoup le choix.
C'est ça qui est compliqué, c'est qu'effectivement, on a un secteur qui est confronté à des logiques économiques que l'on comprend bien, et en même temps, face à cela, des familles en deuil qui sont évidemment en situation de faiblesse à cause du choc émotionnel et en même temps de la contrainte du temps. Donc, comment le législateur peut réguler cette situation de déséquilibre?
Alors, il a quand même quelques difficultés à le faire pour ce qui produit en fait la meilleure régulation, c'est le consommateur qui se positionne comme un consommateur, c'est-à-dire qui fait une démarche. L'action de Que choisir pour cela a peut-être encouragé les personnes à faire des démarches, à aller consulter, voire demander des devis. Normalement, par exemple, on devrait, la fourniture du devis normalement est obligatoire, et si les gens jouent pas le jeu, il faut probablement insister un petit peu. On doit pouvoir être renseigné avant. Moi, je dirais même aller à la rencontre. En fait, le principal ennemi du consommateur, c'est aussi le tabou de la mort et sa difficulté à se positionner comme un vrai consommateur en face des opérateurs funéraires.
Démonstration vidéo d'un cercueil à roulettes télécommandé qui avance tout seul dans une allée. Ne payez plus 4 porteurs, télécommandez vous-même votre cercueil. Bio de chez Bio. Le cercueil bio, construit dans des matériaux rapidement biodégradables. Ne soyez plus une charge pour les générations futures. Moins 50% sur les crémations nocturnes.
Tiens, regarde le choix. Et en 3 clics.
Écoute, c'est grotesque. Revier Bougadi à maman qui s'occuperait de tout. C'est une maison sérieuse au moins. Mais pourquoi tu cliques sur ce cercueil-là?
Mais il est très bien, cercueil, il est sobre.
Il est cheap, on dirait une bassine, tu vas pas la mettre là-dedans.
Bon, je te rappelle qu'on n'a pas de quoi flamber.
Ah bah justement, ça, ce sont des cercueils pour la crémation. Alors clique plutôt sur inhumation, là.
Inhumation. Mais qui te dit qu'elle voulait se faire inhumer?
Ah bah excuse-moi, mais dans ma famille, la question se pose pas.
Mais justement, on n'est pas dans ta famille.
Voilà, cette fois, c'était le film Adieu Berthe avec Denis Podalydès et Valérie Lemercier. Les pompes funèbres ont dû inventer de nouveaux services pour se démarquer les unes des autres, Pascal Trompette. Le cercueil bio, par exemple.
Je crois pas du tout au cercueil bio pour l'instant. C'est ce que j'évoquais. Enfin, je crois pas. Je crois que ça peut être une évolution tout à fait intéressante. Par contre, je suis très suspecte sur le fait qu'on en vende beaucoup aujourd'hui. C'est ce que j'évoquais. En fait, le secteur funéraire, il a une vraie singularité. C'est que le consommateur est quand même plus faible. Appartient plutôt à une population âgée, et que du coup, vous n'avez pas ces phénomènes de rupture comme vous pouvez avoir dans d'autres secteurs avec Uber, avec où les populations sont des jeunes et bougent très vite. Dans le secteur du funéraire, les consommateurs ne bougent quasiment pas, très lentement. Avec mon collègue, on l'avait diagnostiqué aussi sur, par exemple, les ventes de plaques funéraires où vous êtes un peu sidéré de voir que c'est la plaque du bouliste qui se vend encore beaucoup mieux que des choses très jolies et très moderne. Donc, on a une évolution très lente.
Il y a tout de même des inventions, des cérémonies qui ne sont pas religieuses, qui sont proposées aux familles.
Cette problématique de l'innovation et de l'invention, y compris non religieuse, j'allais dire, ça fait 2 siècles qu'on court un petit peu après, depuis la Révolution française. C'est très compliqué d'amener une dimension rituelle et symbolique en dehors de la sphère proprement religieuse. J'allais dire que oui, il y a des innovations. Les pompes funèbres ont cherché à prendre en charge, par exemple, à développer des choses autour du rituel, du rituel civil. Ça donne quand même des choses souvent un petit peu standardisées. On lit un petit peu toujours les mêmes textes. C'est pas forcément... ce qui se joue peut-être sur la période récente, ce sont des acteurs tels que les coopératives funéraires, par exemple, qui réinvestissent vraiment la question du sens.
Et la qualité de l'accompagnement.
D'autres opérateurs funéraires le font aussi. Dans les campagnes, on a aussi tout ce tissu de petits entrepreneurs traditionnels, du terroir. Et puis, vous voyez arriver aussi la remontée de phénomènes concessionnels avec des pompes funèbres catholiques, avec des pompes funèbres musulmanes, c'est-à-dire des acteurs confessionnels qui interviennent sur ce terrain du sens.
Et bien, c'est avec ce retour du sens que l'on finit cette émission. Un grand merci, Pascal Trompette.
Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'Écho présenté par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Les éoliennes et le biogaz, principaux bénéficiaires de la nouvelle version de la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui fixe les priorités de l'État en la matière jusqu'à 2028. Elle doit répondre aux attentes de la transition énergétique et de la filière des renouvelables.
Oui, puisque leur part dans le mix énergétique doit passer de 11 à 40% ces renouvelables d'ici 2030 et que la première version de cet ensemble de mesures présentée il y a un an était critiquée, la Fédération France Énergie Éolienne déplorait ainsi notamment un déploiement éolien en mer, je cite, « sabordé ». La filière représente aujourd'hui 18 000 emplois et cette nouvelle version y répond en partie avec une hausse de 40% des objectifs d'éoliennes offshore, donc maritimes, mais aussi une augmentation d'1,8 milliard d'euros des fonds publics qui seront alloués jusqu'à 2028 pour le biogaz, le méthane notamment produit à partir de déchets. Au total, ce sont presque 10 milliards d'euros qui seront consacrés à cette décarbonation énergétique sur cette période. Beaucoup reste à faire cependant pour les filières et pour les financeurs, explique Adrien Hainaut de l'Institut de l'économie pour le climat I4CE.
Ces ajustements sont assez naturels. Les filières dont on parle ici, notamment les filières d'énergie renouvelable, doivent faire leurs preuves. Des preuves techniques, des preuves de viabilité économique, d'acceptabilité sociale. Si on se remet 10 ans en arrière, il n'est pas certain qu'on aurait adopté à l'époque une stratégie qui aurait donné une telle place aux énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, c'est normal d'entendre certains qui sont déçus, mais c'est pour toutes les filières qui concernent la transition énergétique, ce sont des activités dont on prévoit qu'elles sont amenées à augmenter. Dans les scénarios que dresse l'ADEME, l'agence gouvernementale sur la maîtrise de l'énergie, les perspectives sur les emplois à 20 ans, à 30 ans devant nous, c'est plutôt de l'ordre de 600 000, 800 000 emplois dans toutes les activités de la transition, y compris aussi dans les activités sur la demande, la rénovation des bâtiments, la construction de bâtiments énergétiquement performants. Donc il y a un réservoir d'emplois et d'activités qui peut s'accroître sur ces secteurs. Et à l'échelle de 10 ans, c'est 30 milliards d'euros par an en plus qu'il faut pouvoir investir dans ces secteurs pour être en phase avec les objectifs de la stratégie nationale.
Et certains poids lourds du secteur de l'énergie ne sont pas non plus tout à fait satisfaits.
Oui, là, selon les Échos, le groupe Engie regrette la non prise en compte de la production électrique dans la PPE et GRDF, qui développe son activité de biogaz, déplore que le volume visé soit plus de 3 fois inférieur au potentiel actuel estimé par lui, même si le nouveau PPE augmente légèrement le prix d'achat du biogaz d'ici 2028. Alors pas assez de soutien, il faudra de toute façon réduire la part de fossiles et la consommation énergétique globale pour parvenir à ces objectifs. Et pour 40 milliards d'euros en tout, l'État ne financera pas toute la transition énergétique.
On passe au bref, finance et climat encore. Le forum économique de Davos commence aujourd'hui, Xavier, et le climat y est plus que jamais un enjeu rhétorique.
Oui, celui pour les ONG de lutter contre le greenwashing après les annonces du gestionnaire d'actifs BlackRock selon lesquelles il allait verdir une partie de ses placements et la réponse de l'ONG Greenpeace qui critiquait une entreprise enfoncée jusqu'à la taille dans les carburants fossiles. Eh bien, celle-ci réitère suite à la publication d'une étude du forum économique mondial hier affirmant que le climat faisait partie des 5 principales préoccupations des entreprises. Greenpeace dénonçait la participation d'entreprises finançant encore largement les énergies fossiles au forum, dont au moins 10 banques, 3 fonds de pension et 5 assureurs mondiaux.
Davos toujours et la taxe sur le numérique, enjeu important d'une rencontre demain entre Emmanuel Macron et Donald Trump.
Oui, information non officielle à l'AFP et énième épisode de cette bataille qui oppose la France et l'Europe aux États-Unis pour mettre en place une taxe nationale sur les entreprises numériques. Ces dernières semaines, la France qui avait pris cette taxe, 3% sur le chiffre d'affaires des entreprises et les États-Unis qui menaçaient de surtaxer plus de 2 milliards d'euros de produits français, s'étaient neutralisés. Les États-Unis avaient notamment suspendu leur menace la semaine dernière. Et bien, lors de la rencontre de demain, la France pourrait également donner un gage de bonne volonté en suspendant la perception de cette taxe.
Merci Xavier et à demain.
Jack and Jill went up the hill to get a little high. Sat and talked for hours how they wanted more from life. She promised him forever as she looked him in the eyes. Little did Jack know that every word of it was lies. And it all came tumbling down when he found out she's sleeping around nowhere. That's it, live through his promises now.
game of the heel, but she's broken his crown and his heart sinks. His head in the clouds, she left him solo with her goodbye. Now Jax is getting high.
Jack and Jill de Broken Back. Merci beaucoup Pascal Trompette de nous avoir accompagnés aujourd'hui de l'atelier du croque-mort à la boutique de Pompes Funèbres. Merci également à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovin et Alien de Recours, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique aujourd'hui Louis Bardinet. Demain, la finance, elle aussi, a son mot à dire sur la fin de vie. Peut-on parier contre la mort? On posera la question à André Strauss et Sébastien Masséni. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Oh,